Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h48, les grands débats ce matin avec Thierry Guerrier, Christine Boyau, vos appels au 0826-300-300. On va revenir sur les masques à l'école.
Oui, les masques à l'école, la proposition aussi d'Arnaud Montebourg qui fait beaucoup causer, on y reviendra tout à l'heure. Vous pouvez réagir sur l'ensemble de ces sujets, sur la politique d'ailleurs aussi. C'est le début véritablement de la dernière ligne droite pour les Républicains avec les débats qui démarrent ce soir pour ensuite les départager le 4 décembre, alors que l'on apprend dans un sondage, alors évidemment les sondages, il faut toujours les prendre avec des pincettes, mais ce sont des photos, quoi qu'on en dise, que eh bien, Éric Zemmour continue aussi sa progression, puisque dans le sondage IFOP fiducial pour LCI et Le Figaro, eh bien, il serait à 17%. C'est toujours Xavier Bertrand chez les Républicains qui est le mieux placé. Revenons quand même au masque à l'école, dans 39 départements. Aujourd'hui, mesure de prudence, alors plus ou moins bien acceptée, hein, Christine Bouillot.
Oui, et on comprend les enfants. Hein. Il suffit de faire le tour d'un parc avec des enfants en leur demandant s'ils sont contents, un, de retourner à l'école après 15 jours de vacances, deux, de remettre le masque dans les départements concernés. Oui. Je vous laisse imaginer la réponse, parce que pendant quelques semaines, ils ont eu aussi le sentiment d'en finir avec l'épisode Covid. Donc là, c'est un retour en arrière qui n'est pas forcément bien accepté, en tous les cas, qui rappelle de mauvais souvenirs, qui est contraignant, il faut quand même le rappeler aussi, hein, puisque les enseignants le disent, pour les apprentissages, pour les petites classes, les CP, CE1 qui apprennent la lecture et l'écriture, eh bien, pouvoir voir le visage de l'instituteur ou l'institutrice, c'est quelque chose d'essentiel. Et là, il faut rappeler les règles sanitaires, etc. Donc, ça veut dire aussi que plus globalement, il y a cette possible cinquième vague. Donc, attendons de savoir ce que Emmanuel Macron va nous dire aussi demain soir par rapport à ça. On sent qu'on n'est pas sorti, comme on dit dans les campagnes, on n'est pas sorti des ronces avec le Covid, mais c'est surtout la consigne et surtout la troisième dose qui patine, cette troisième dose pour les personnes les plus fragiles. Je peux vous garantir
les plus de 65 ans, les plus de 80, quoi. Notamment les plus de 80. Hein. Il y a un pourcentage quand même
assez faible.
Oui, absolument.
Alors, est-ce que c'est parce que tout simplement, le message de prévention ne passe pas? Est-ce qu'il y a une forme de lassitude? Est-ce que c'est plus compliqué de rejoindre les centres de vaccination? Parce que beaucoup, ces grands centres qu'on a connus au plus fort de l'été jusqu'à cette rentrée ont fermé leurs portes. Et donc maintenant, il faut s'adresser soit à son pharmacien, soit à son médecin traitant. Et que donc, les personnes âgées n'ont peut-être pas envie de sortir non plus ou de retourner, etc. Donc, on voit bien que là, il y a un enjeu de santé publique et pour permettre effectivement de passer l'hiver dans des conditions pour ceux qui iront au ski, ils auront le masque, mais tout le monde n'ira pas au ski, et donc il faut faire attention à
cette le masque, alors pas de passe sanitaire, mais le masque sur les pistes de ski, enfin en tout cas dans les remontées, pas forcément sur les pistes, mais en tout cas dans les remontées. De toute manière, sur les pistes, on a déjà aussi l'écharpe, quoi. Thierry Guerrier.
Oui, c'est pas drôle, c'est pas sympa de remettre le masque, c'est clair, mais qu'est-ce qui est drôle ou qu'est-ce qui est sympathique dans cette crise de société que nous vivons depuis 2 ans? C'est ça le sujet. Alors, on sait qu'il n'y a pas 36 solutions. Il y a les gestes barrières fondamentaux. En particulier, un épidémiologiste insistait hier soir encore sur ce point à la télévision, la nécessité d'aérer des espaces comme le nôtre ici, comme tous ceux de Réunion en particulier.
À tel point qu'on ouvre la fenêtre régulièrement, mais que le matin, c'est pas toujours évident parce qu'il fait... il fait quand même assez froid.
4
quoi.
Degrés aujourd'hui. Mais et puis il y a la vaccination. Alors, qu'est-ce que nous dit cette décision, ou en tout cas ce retour du masque, et notamment pour les petits, pour qui c'est difficile vraiment psychologiquement, ça nous dit qu'il faut vivre avec. Et on l'a compris maintenant collectivement, que peut-être ça va durer plusieurs années, que peut-être il faudra retourner se faire vacciner, peut-être pour les plus fragiles, en tout cas pour ceux dont l'immunité baisse tous les 6 mois. Vous comprenez que ça veut dire... ça veut dire, comme par exemple, il faut s'intéresser aux pays qui ont du mal à avoir accès aux doses de vaccins et qui les demandent, qui ont des difficultés aujourd'hui. Ça veut peut-être qu'un jour, par exemple, il faudra arriver à une forme de gratuité ou en tout cas de prix extrêmement en bas pour les pays du Sud ou en voie de développement qui réclament le vaccin.
Retour du masque, notamment au standard 0826 300-300, et là vous pouvez parler sans le masque.
Et c'est Edith qui est avec nous du Lot-et-Garonne. Bonjour Edith.
Oui, bonjour. Merci de prendre mon intervention. Voilà, je vous appelle parce que je ne suis pas dans le Lot-et-Garonne, hein. Je suis dans le Lot.
Oui.
Et ce matin, j'ai amené ma fille à l'école et elle m'a demandé dans la voiture, « Maman, pourquoi est-ce que je remets le masque aujourd'hui ?» Elle était tellement contente d'avoir enlevé le masque parce qu'elle se cachait dans les toilettes pour respirer. Vous vous rendez compte? Ils ont mal à la tête, les enfants, le soir. Ils n'en peuvent plus, nos enfants. Et nous aussi, on n'en peut plus. J'en peux plus, moi, de voir cette... Vous savez, j'ai voyagé en Autriche et en Allemagne. Et en Autriche et en Allemagne, si vous n'avez pas des masques FFP2, c'est comme si vous n'avez rien sur la tête, sur la bouche. Donc, c'est inadmissible. C'est inadmissible ce qu'on fait vivre à nos enfants. Et j'encourage tous les parents d'élèves, comme moi, à écrire à leur préfet. Et toutes les associations de parents d'élèves, il faut écrire au préfet. Il faut demander des comptes. Pourquoi, moi, dans le Lot, on a des masques? Et pourquoi, en Dordogne, alors que le taux d'incidence est plus important, il n'y a pas de masque? Je veux savoir. Je veux qu'on me rende des comptes. Je suis citoyenne de ce pays. Ouais. J'ai des droits.
Ouais. Et Edith, devant l'école, quelle était l'atmosphère ce matin? Vous avez parlé avec d'autres parents d'élèves ou pas?
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Et ils sont
tout
un peu...
Tout le monde est catastrophé, mais tout le monde a peur. La peur s'installe dans ce pays. Moi, j'ai pas peur. Mes grands-parents, ils étaient résistants. J'ai le droit de dire ce que je veux à l'antenne. Voilà.
Ouais. Merci, Edith, de votre témoignage. Il y a d'autres appels. N'hésitez pas, vous continuez de nous appeler 0826-300-300. Guillaume.
Guillaume est avec nous. Guillaume. Qui nous appelle de Carcassonne.
Oui, bonjour, Guillaume.
Oui, bonjour, Cécile. Bonjour, Patrick. Bonjour, Thierry.
Oh là, on ne vous entend Guillaume. Pas très bien, Guillaume. Rapprochez-vous du micro. Combiné. Vous pouvez enlever le masque pour parler, en fait. Je plaisante. Hein,
et même évidemment. La distanciation sociale. Ouais.
Alors, nous, dans l'Aude, malheureusement, les collégiens avaient déjà le masque, donc ça n'a pas changé beaucoup pour eux à la rentrée. Ils étaient
déjà
habitués à l'avoir, hein, donc on maintient, mais je partage la même colère que l'auditrice précédente.
Oh là là, mais Guillaume, on vous entend très mal, Guillaume. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous reprend dans un instant. On marque une pause, on revient aussi avec les infos de 9h et on vous reprend et on continuera sur le masque et puis les autres sujets du jour, notamment aussi la déclaration d'Arnaud Montebourg, les questions que l'on pose d'ailleurs. Cécile, qu'est-ce que l'on dit sur les réseaux sociaux?
Sur les réseaux sociaux, on parle effectivement beaucoup d'Arnaud Montebourg et on vous demande si effectivement, si c'est... alors attendez, bougez pas parce que je n'étais pas dessus.
Ah bah alors,
on vous pose la question de savoir si c'est pour vous c'est l'opportunisme ou pas, ou si vous pensez que c'est une bonne mesure. C'est ce que vous dites pour l'instant, vous dites que c'est plutôt une bonne mesure et qu'il y a un petit côté opportuniste et avec pas mal de messages, je vous les lirai dans quelques instants.
Ouais. Allez, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h03, la suite des grands débats avec Christine Bouillot, Thierry Guerrier. Vos appels 0826-300-300, on va revenir sur les questions du jour.
Oui, alors la première question...
Que pensez-vous de la proposition d'Arnaud Montebourg de bloquer les transferts d'argent vers les pays qui refusent de rapatrier les clandestins? Vous dites pour l'instant que c'est judicieux à 45% et opportuniste politique à 45% aussi. Pascal Carco nous dit d'ailleurs c'est un opportuniste qui passe de la gauche à la droite, entre les partis traditionnels et l'extrême droite. Et puis la seconde question...
Donc ça, on y reviendra dans un instant. Avec le factuel d'Adeline Divou et puis vos réactions, le grand débat Thierry Guerrier, Christine Bouillot et vous au 0826-300-300. Et l'autre question que l'on évoquait juste avant la pause, il y a un instant.
Et on va récupérer Guillaume d'ailleurs de Carcassonne qui nous en parlait.
Sur le masque.
Sur le masque,
la question que l'on pose...
Que pensez-vous du retour du masque à l'école auprès de 39 départements pour l'instant? Vous dites que c'est exagéré à plus de 88%. Nima nous dit on critique les régimes totalitaires des pays de l'Est, la Corée du Nord, la Chine, et ici on applique les mêmes règles. Ils ont changé l'uniforme contre un costume ou une cravate. Et OM Run nous dit aussi vous avez oublié le choix irresponsable. Voilà, continuez de commenter sur nos réseaux sociaux.
Guillaume, on l'a retrouvé au téléphone avec une meilleure ligne, j'espère, Guillaume.
Oui.
Ah, allô, bah voilà, de Carcassonne. Oui, bon.
Je peux saluer tout le monde, donc Cécile, Patrick, Christine et Thierry.
Ouais. Voilà, c'est ça.
Ouais.
Bonjour. Et Adeline. Ça fait du monde.
Oui, il y a beaucoup de monde. Sur le masque, alors, Guillaume, vous vouliez réagir. Hein.
Ah ben oui, moi je voulais partager ma colère de l'auditrice précédente. Nous, dans l'Aude, on est, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas vraiment concernés parce qu'on portait le masque avant les vacances et donc ils l'ont encore à la rentrée, donc ça ne change pas beaucoup pour eux, mais ça n'empêche de dire que c'est inadmissible ce qu'on leur fait subir une fois de plus. Et je pense que c'est va être encore un coup de pression pour jouer encore avec la vaccination. Et la vaccination, je voudrais juste me permettre de dire qu'avant de choisir la troisième dose obligatoire pour les autres ou même pour vacciner les enfants, il faudrait peut-être s'occuper des personnes à risque. Parce que il faut, c'est ce qui est quand même dingue. Il y a 15%, je crois, des plus de 80 ans
oui.
qui n'ont pas été vaccinés ou qui n'ont reçu qu'une dose. Et en tout, je crois que ça fait plus d'un million de personnes de plus de 65 ans qui n'ont toujours pas été vaccinées. Et ce sont vraiment ces personnes qui sont à risque. Donc oui, on laisse les enfants tranquilles, qu'on nous laisse tranquilles et qu'on s'occupe déjà du personnel à risque. Et puis après, on verra après pour les autres.
Mais... Oui, c'est vrai d'ailleurs qu'il y a des réactions de gens qui disent on fait payer aux enfants pour les adultes, grosso modo. Quoi. Parce que c'est un peu ça. Même si, alors sur le masque, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une étude qui a été publiée en Corée du Sud. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais il y en a une en Corée du Sud qui dit quand même que le masque, alors pas forcément pour les enfants, hein, mais globalement, réduit quand même très nettement à plus de 90% le risque de propagation. C'est quand même un sacré pied de nez à ce qu'on nous disait il y a un an et demi, deux ans. On disait non, mais le masque, ça ne sert à rien, vous ne savez pas l'utiliser. Vous vous souvenez quand même de ces déclarations de certains qui étaient pourtant très bien placés, quoi, hein.
Et les purificateurs d'air ?
Et les purificateurs d'air, oui. Alors,
parce que je crois qu'on en parle depuis très longtemps, ils ne sont toujours pas installés dans les écoles.
Si, dans certaines écoles, Guillaume, c'est installé, oui. Mais pas partout, parce que ça coûte un peu cher et c'est à la charge des municipalités, mais c'est vrai que c'est une vraie question. De toute manière, je pense que même si tout le monde en voulait, on ne pourrait pas fournir parce que...
Il faut mettre dans toutes les classes.
Il y a un problème de fabrication et de production. Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est une bonne chose. J'en parlais avec des médecins qui me disaient quand même qu'ils en ont mis, pour certains hein, aussi, dans leur cabinet, dans leur salle d'attente, et qu'ils sont assez satisfaits de ça, quoi. Bon, après, il y a la fenêtre ouverte, hein, qui reste aussi une solution, mais en hiver, c'est un peu plus compliqué. Non, mais ça, c'est vrai, je vous l'accorde. Christine, restez avec nous, Guillaume, si vous voulez continuer de partager, d'échanger. Christine, vous le disiez aussi tout à l'heure, donc, pour les enfants, c'est quand même extrêmement compliqué, et on leur fait payer, ce que je disais, là, on leur fait payer un peu pour les adultes. En même temps, on dit qu'ils peuvent propager aussi le virus, alors le virus qui est quand même pas très présent, quoi.
Oui, alors en effet, on entend la colère et surtout l'interrogation de cet aller-retour entre les autorisations d'enlever le masque, hein, puisque juste avant les vacances, certains départements ont commencé à enlever le masque pour être allés voir comment ça se passait dans le Tarn. Bah, je peux vous dire que tous les parents ne disaient pas à leurs enfants d'enlever le masque à l'école parce qu'ils trouvaient que c'était trop précoce, trop tôt, que l'hiver arrivait. Et malheureusement, les taux d'incidence en trois semaines leur ont donné raison. Et donc on voit bien... La difficulté de faire appliquer ou en tous les cas de faire accepter une décision sanitaire qui malgré tout toutes les limites qu'elle comporte, à savoir la gêne, la difficulté de respirer, le fait que ce soit compliqué pour les apprentissages, permet de garder les écoles ouvertes. C'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Les maternelles n'ont pas de masque. Le retour du masque à l'école n'est redemandé dans 39 départements que aux écoliers du primaire, puisque dans les collèges et les lycées la mesure n'avait pas été levée pour l'ensemble des départements français. Donc on reste, on va dire, sur un espèce d'aller-retour dans le primaire. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire comprendre qu'il faut revenir au masque. Les purificateurs d'air, donc ça, on oublie, parce que même s'il y en a quelques-unes, je pense que c'est epsilon dans les mesures sanitaires qui sont installées, parce que vu le nombre de classes à équiper, c'est absolument impossible.
Bah non, mais chaque commune pouvait le faire. Hein. Après, c'est un choix. Hein. Soit vous mettez des potées de fleurs un peu partout sur le territoire, ou vous choisissez aussi purificateur. Franchement, c'est aussi en fait un choix dans les communes, même si évidemment il y a beaucoup de classes. Mais c'est aux environs de 1000 euros. Mais parfois, quand vous voyez des choix effectués dans des communes, de l'argent public qui est dépensé, il y a des questions quand même à se poser. Thierry Guerrier.
Oui, réduire la circulation du virus, c'est réduire la charge des soignants, parce qu'en réalité, c'est réduire les risques de contamination. C'est malheureusement aussi trivial que cela, et c'est fondamental. Ce sont les éléments en suspension dans l'air qui transmettent le virus, on le sait, et les taux d'incidence en sont la démonstration.
Ouais. Allez, on passe. Merci Guillaume aussi de nous avoir appelé. Je sais que vous étiez nombreux encore à réagir au 0826 300 300. Il y a d'autres sujets qui font réagir, comme par exemple Arnaud Montebourg, alors qu'il veut taper dans le portefeuille de l'immigration. immigration illégale, mais pas qu'illégale d'ailleurs, hein, parce que le candidat à la présidentielle veut bloquer les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants visés par une mesure d'expulsion. C'est ce qu'il a annoncé hier. C'est une mesure qui avait été, et donc évidemment Éric Zemmour l'a retweeté, il l'avait proposé aussi lui-même dans sa ces dernières semaines.
Programme.
Est-ce que c'est déjà légal dans le factuel? C'est ce qu'on voit avec vous, Adeline Divou.
Alors, ce n'est pas illégal. En tout cas, si on regarde les règles de Western Union, l'une des entreprises phares dans le domaine, ce sont les lois des pays où le transfert est réalisé qui priment, même si l'entreprise est américaine. En fonction des pays, les lois peuvent donc interdire aux prestataires de transfert d'argent d'effectuer des transactions avec certaines personnes ou vers certains pays. Western Union a l'obligation légale de contrôler toutes les transactions pour cette raison, pour vérifier que les clients n'apparaissent pas sur une liste noire fournie par les gouvernements. Donc, techniquement, ce serait possible d'appliquer des propositions d'Arnaud de Montebourg.
Voilà, techniquement, juridiquement, c'est peut-être autre chose. Arnaud Montebourg qui a évoqué, on a évoqué le chiffre de 11 milliards d'euros. Thierry Guerrier.
Mais oui, il y a une réalité, c'est que c'est une manne considérable pour les pays en voie de développement, dont les pays les plus pauvres, dont la diaspora renvoie évidemment de l'argent. Les immigrés viennent souvent travailler pour aider leur famille dans leur pays. Alors, politiquement, Arnaud Montebourg, d'abord, on pourrait considérer que tout le monde court derrière Zemmour en ce moment. Hein, et il y a un peu de ça dans le coup, parce que c'est un coup politique tenté par Arnaud Montebourg. Il applique cette technique de la triangulation. Il clive d'abord et puis après il va revenir pendant les heures et les jours qui viennent sur le thème « Mais non, je ne sais pas exactement ce que je voulais dire. L'important, c'est qu'on prenne conscience de la réalité. » Bon, il y a une tentative pour lui après s'être positionné sur l'économie.
Donc vous dites que c'est de l'opportunisme politique, vous.
Je dis qu'il fait de la politique et que à cet égard, il tente de s'imposer, de dépasser peut-être Roussel, Fabien Roussel, le communiste par exemple, en grappillant, en affichant, en étant au cœur d'un débat, d'un buzz, positif ou négatif, c'est pas son sujet. Son sujet, c'est de faire un coup. Et là-dessus, il veut se positionner sur le régalien, en essayant d'apparaître comme ferme ou quelqu'un d'autorité, sur des questions qui sont celles de la sécurité, puisqu'il s'agit des délinquants étrangers qu'on voudrait renvoyer et que les pays, leurs pays respectifs ne prennent pas.
Ouais, mais, donc, on se souvient, la polémique était née notamment avec les pays du Maghreb, hein, qui refusaient, bien sûr.
Tunisie, Algérie et Maroc qui ont refusé souvent d'appliquer les propositions, enfin les demandes de la part de la France. Ouais. Et alors, le régalien, après la remontada économique, l'idée de la souveraineté industrielle, voilà, Arnaud Montebourg tente de se positionner sur une autre.
Christine Bouillot,
c'est clivant à gauche pour lui, ça va être compliqué.
Avant d'aller au standard 0826-300-300, c'est que de l'opportunisme politique ou c'est finalement de la réelle politique en quelque sorte aussi, Christine Bouillot.
C'est de la proposition de campagne pour répondre comme ça, puisque bon, Arnaud Montebourg est un adepte ou un habitué, je dirais, des coups médiatiques. Hein. Dans la semaine, il a occupé le terrain avec l'histoire des pulls chinois achetés par l'armée dans le terrain de la semaine dernière, qui n'était pas tout à fait ce qui était annoncé au départ. Donc, il y a un besoin d'exister sur le champ médiatique à gauche. De la gauche, il est à 2 ou 3% aujourd'hui. Anne Hidalgo est à 5%. Donc l'idée, sans doute, c'est de effectivement grappiller et de remonter et de passer devant dans les intentions de vote actuelles, de manière à être centrale dans une potentielle réunification. Alors il n'y en aura pas, mais simplement dans ce débat à gauche où beaucoup appellent à ce que les candidats se regroupent, qu'on arrête ce morcellement, parce qu'aujourd'hui il y a une vraie attente, notamment des électeurs de gauche, hein, du terrain, qui disent on ne peut pas avoir autant de candidats dans un mouchoir de poche. Quoi.
Et on a une réaction au standard avec Alain qui nous appelle du Gers. Bonjour Alain.
Bonjour Alain.
Bonjour, je vous remercie de m'accorder la parole.
Oui.
Bienvenue.
Alors je vais reprendre un peu tous les débats.
Oui, quand même pas trop, parce que sinon...
on n'avance pas.
Vous en parlez de Montebourg.
Oui,
Que je vous donne mon point de vue. Moi j'imagine, je voudrais donner une image. Oui. C'est un Algérien qui travaille au mois d'août et qui fait une façade d'un immeuble. Parce qu'on a eu besoin en France, parce qu'il n'y a pas un seul Français qui peut faire ça. Hein. On ne peut pas rester à 40 degrés à faire une façade. Imaginez, personne ne peut le faire. Et eux le font. Alors ce monsieur, il a envie d'envoyer 100 euros à sa famille. Et donc il va être puni. Il va être puni par M. Montebourg sans raison, un peu comme ceux qui le sont par le pass sanitaire. C'est un peu similaire. On a des hommes politiques qui vont vite avec le langage et d'ailleurs qui n'ont pas le costume. Ils parlent beaucoup parce qu'ils n'ont pas le costume. C'est pas des Georges Marchais, c'est pas des... Voilà, c'est des gens qui sont plus trop crédibles. Alors ils essayent de piquer une idée à droite, à extrême droite, un peu comme ça, pour se faire voir. Et puis voilà, moi je suis un peu dégoûté de tous ces hommes politiques.
Oui, oui. Bon. Voilà. Mais il était conduit par le fait qu'il y avait le refus hein, par ces pays.
Je suis d'accord avec vous, le refus. Mais il y a un autre sujet avant de parler du refus. Pourquoi n'applique-t-on pas les peines en France? Il y a des gens qui ont 60 condamnations et qui courent dans la nature.
Ouais, c'est
ce qu'on entend, en tout cas.
Ouais, c'est vrai.
On commence par appliquer les peines et on sera moins embêté avec les gens des pays étrangers. Ils vont s'adapter, la peine elle sera pour tout le monde et ils réagiront bien. Mais un délinquant qui a... Moi j'ai entendu ça l'autre jour à la radio justement, 60 condamnations et le gars il court toujours.
On est
où là?
Voilà,
c'est mon point de vue. Mais bon,
Il y a un autre sujet sur lequel vous vouliez réagir.
Par rapport au masque, je voulais répondre à Christine et à Thierry, vos interlocuteurs. Hein. Christine qui semblait dire que 1000 euros un purificateur d'air c'était très cher. Eh bien, il y a des communes où on fait une salle des fêtes pour 100, 150 000 euros. Moi, j'ai une commune voisine où ils ont mis 300 000 euros sur un vieux moulin. Donc, je pense, pour une seule classe d'école, je pense que 1000 euros, on doit pouvoir les trouver un peu partout, hein, même comme vous
parlez. Alors,
vous
ça disiez, fait plus. Oui, ça fait un peu plus parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs classes après. Hein, c'est pas qu'un purificateur pour l'école. Mais c'est vrai que ce sont des choix budgétaires que l'on peut faire. Quoi. Je caricaturerais en disant on veut des potées de fleurs en fait un peu. Bon, à un moment donné, il faut faire un choix. Hein. Ouais.
La région Rhône-Alpes-Auvergne a déboursé 10 millions d'euros hein, pour les purificateurs d'air.
C'est vrai, exactement.
Oui, mais ma foi, pourquoi pas. Ensuite, parce que quand on fera le bilan, des dégâts causés, parce qu'on nous fait une grande peur, avec le Covid, 5e vague, 6e vague, c'est une grande, grande peur. Par contre, on met jamais en évidence les dégâts qui seront causés psychologiquement. On a indiqué que les taux de suicide des 12-15 ans avaient monté d'intention à 300%. Je crois que quand on fera un bilan global de cette épidémie, il y a une partie de la population qui est à risque. D'abord, au début de l'épidémie, il y a de grandes erreurs qui ont été faites, comme l'intubation, des médicaments qui ont été donnés. Moi, je me souviens, je n'ai pas le nom, je retrouverai le nom. Un médicament qui a été donné aux personnes âgées qui avaient le Covid pour enlever la douleur. Et quand on lit, moi j'ai le nom de ce médicament, quand on lit les contre-indications, il est marqué de surtout ne pas le prescrire en cas d'insuffisance respiratoire. Alors de là à dire qu'on a euthanasié les gens, je veux pas, mais il y a quand même eu des erreurs, et des grosses erreurs. Ouais. Elles n'y sont plus aujourd'hui.
Ah mais non, mais ça a pataugé. Non mais c'est très clair, ça a pataugé et ça continue parfois encore. Quoi.
Continue.
Non mais ça
c'est vrai. Aujourd'hui, on
merci.
La peur.
Oui, merci Alain, merci à tous. Mais c'est pas terminé, bien sûr. Mais en tout cas sur ces grands débats en fait du matin concernant ces questions du masque, je pense qu'on y reviendra aussi demain parce que Emmanuel Macron, vous savez, doit s'exprimer à 20h hein, demain, donc on verra ce qui nous dira. J'ai l'impression qu'il ne parlera pas que de ça. Il veut aussi parler des réformes qu'il veut continuer de mener. Il profite un peu de l'occasion. On verra ça, on commentera. Et bien sûr aussi, ce sujet autour d'Emmanuel Macron. Dans un instant, la monnaie et le capital. C'est quand même assez incroyable parce que on continue de s'endetter. On fabrique en fait de la monnaie. On met ça en circulation et après, on se pose en fait un certain nombre de questions sur à quoi ça sert en fait cette monnaie de fabriquer comme ça et finalement ça semble simple, c'est de l'argent magique. Eh ben non, on va voir ça avec Laurent Bérébi dans un instant. La nouvelle économie patrimoniale, monnaie et capital, restez, c'est particulièrement intéressant.
À tout de suite, il est 9h19.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
À 9h22, les grands débats du matin, on va vous parler d'économie, mais économie accessible, vous allez voir. Laurent Bérébi est avec nous, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, fondateur de Global Macrofinance et auteur de ce livre, Monnaie et Capital, la nouvelle économie patrimoniale, aux éditions d'Odile Jacob.
Bah oui, ce que vous dites, c'est que c'est un peu tout ce qui fracture en fait la société, qui va accélérer encore les inégalités autour de la monnaie. Alors d'abord, il faut dire, essayer de définir très concrètement l'économie patrimoniale que vous décrivez dans votre livre.
Alors, déjà, il faut définir l'économie, parce que moi-même, qui suis économiste, en fait, je me suis intéressé au sujet lorsque j'ai écrit ce livre.
Ouais.
L'économie, ça vient du grec, et il y a deux mots grecs dedans, il y a oikos et nomos. Oikos, c'est la maison, et nomos, ça veut dire gérer, administrer, partager, mais ça a aussi un sens d'ordre. Pour en ce qui concerne la gestion. Et donc ça veut dire
quoi ? De
valeur,
d'ordre, vous voulez dire de
alors,
valeur.
Alors justement, et donc finalement ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tout simplement que la maisonnée, on va dire, ou la communauté va gérer de façon optimale ses ressources pour dégager le bien-être matériel maximal afin d'établir l'ordre au sein de la communauté. Donc c'est ça l'économie. Ouais. Après on a rajouté le qualificatif de politique. Ouais. Mais l'économie politique, ce n'est pas de la politique, au sens où on l'entend aujourd'hui. L'économie politique, c'est l'économie pour les membres de la police, c'est-à-dire police au sens grec, c'est-à-dire de la cité.
Ouais.
C'est-à-dire, en fait, c'est les membres qui ont fait un choix de vie commune. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui est très importante et qui fait référence à l'économie politique. Alors maintenant, pourquoi l'économie patrimoniale ?
Oui, c'est ça. Alors, parce que patrimoniale, ça parle à beaucoup de gens, mais on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Voilà. Ouais. Alors, en fait, il y a une dimension qui est absolument essentielle dans le libéralisme et qu'on oublie trop souvent, c'est la dimension de distribution de la richesse qui est créée, c'est-à-dire du bien-être matériel qui est fabriqué. Comment cette distribution a lieu ? En fait, elle a lieu par la possession, la propriété du capital. Que ce soit le capital financier, mais qui fait référence finalement au capital physique, productif, dont on a besoin pour produire, mais aussi au capital humain. En fait, c'est en détenant une forme de capital qu'on a accès, qu'on a droit justement à une part de la richesse qui est créée. Donc ça, c'est une dimension fondamentale du libéralisme qui est souvent sous-entendue ou du moins très mal explicitée, puisqu'on dit que l'avantage du libéralisme, c'est d'offrir... des biens et services pour l'ensemble des membres de la communauté au prix le plus faible possible. En fait, l'avantage du libéralisme, il y a une vertu au libéralisme qui est absolument essentielle, qui est la vertu d'équité. C'est-à-dire que globalement, lorsque vous détenez une des formes de capital, en fait, vous avez droit et vous captez ce à quoi vous contribuez pour la communauté, c'est-à-dire au bien-être matériel auquel vous contribuez pour la communauté. Mais ça, c'est par le biais de la détention du capital. Et donc, c'est bien par le biais patrimonial. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette dimension-là qui est très importante et qui n'est pas du tout... Enfin, c'est pas l'approche du tout qui est adoptée par le corpus théorique actuel. Le corpus théorique actuel...
Alors, c'est le corpus théorique actuel, c'est-à-dire ce sont les politiques, les économistes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, l'économie... fait référence finalement à un équilibre d'offres de biens et services, par exemple, et à cette dimension du prix le plus bas possible. En fait, là, dans le livre, on s'intéresse véritablement à la distribution de la richesse qui est créée et comment cette distribution est-elle opérée. Oui. Voilà, donc c'est ça l'approche patrimoniale. Et donc, lorsqu'on a cette approche-là, finalement, on met en évidence... des choses que ne peut pas mettre en évidence la théorie économique actuelle. C'est-à-dire que, globalement, on met en évidence un nouveau régime économique dans lequel on a basculé depuis la fin du XXe siècle, on va dire, et qui est un régime économique où, finalement, la distribution qui aurait dû être équitable de la richesse qui est produite, donc du bien-être matériel qui est produit, elle n'est plus équitable.
Bah c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que finalement, ça s'accroît pour certains, ça augmente, et puis pour les autres...
Absolument. Et surtout, on n'a plus, pour une part de plus en plus importante des membres de la communauté, ils n'ont plus droit à ce à quoi ils auraient dû avoir droit. C'est-à-dire, finalement, ils ne captent plus ce à quoi ils ont contribué.
Oui, mais normalement, c'est une contribution équivalente ou équitable à ce que l'on produit, quoi. On reçoit...
Oui, exactement.
Normalement, c'est ça, sur le terrain, en tout cas.
C'est-à-dire que si vous contribuez à 100 à hauteur de 100 pour le bien-être matériel de la communauté, vous avez 100.
Ouais.
Si vous contribuez à 10, vous avez 10. Si vous avez contribué à 0, vous avez 0.
Mais c'est tout le problème, en fait, de la valeur, en fait, des métiers. Pourquoi on va payer beaucoup plus un trader qu'un charcutier ou qu'un homme de ménage,
voilà,
ou une femme de ménage, quoi.
On va dire, c'est le libéralisme, on va dire, c'est les forces libres du marché qui s'en chargent.
Ouais.
Mais aujourd'hui, le vrai souci, c'est la différence avec les années 70 et 80, c'est qu'aujourd'hui, finalement, ce qui est distribué à une part de plus en plus importante des salariés de la classe moyenne, on va dire, eh bien, est inférieur à ce à quoi ils auraient dû avoir droit.
Pourquoi ?
Alors, il y a finalement un phénomène qui s'est passé et qui fait que on a eu cette révolution des nouvelles technologies de l'information. Et alors, je vais essayer d'exprimer très simplement. Finalement, cette révolution des nouvelles technologies de l'information, elle a consisté à faire tourner, on va dire, à avoir une information beaucoup plus rapide entre le producteur et le consommateur.
Ouais.
On a écourté la chaîne entre le producteur et le consommateur. C'est tout Internet, par exemple, ou par exemple, si on prend l'exemple d'Amazon ou de sites Internet, eh ben, on peut mettre notamment en contact le consommateur directement avec le producteur.
Et en quoi ça affaiblit la classe moyenne ?
C'est plutôt positif dans l'absolu.
C'est plutôt positif, absolument.
Ça affaiblit la classe moyenne, alors ?
Alors, justement, et donc ce progrès-là, c'est un progrès, ce qu'on appelle progrès technique du capital. C'est-à-dire que finalement, c'est le capital qui tourne plus vite. C'est-à-dire que vous avez la même chose, les mêmes outils productifs, mais en fait, comme l'information va plus vite, en fait, la machine économique tourne plus vite, automatiquement.
Et elle en oublie certains au passage, quoi.
Alors, le truc, c'est que ce progrès technique du capital ne bénéficie qu'à ceux qui détiennent le capital.
Et les autres
Et les autres, finalement, n'en bénéficient pas.
Ouais.
Et donc, à partir de là, il y a une distribution inéquitable de la richesse, alors qu'elle aurait dû être équitable.
Allez, on va continuer avec vous la nouvelle économie patrimoniale. On parlera aussi des bulles. Est-ce qu'il y a des fameuses bulles ? Et ça, c'est valable pour tout, y compris dans l'immobilier, où on ne sait pas pourquoi, tout à coup, les maisons, les appartements se retrouvent à un niveau, en fait, complètement dingue, à tel point qu'on ne peut plus les acheter, et notamment pour les classes moyennes. C'est ce que vous décrivez dans votre livre, hein, Laurent Bérébi. On continue dans un instant.
Vous voulez nous appeler 0826-300-300, on vous attend, bien entendu. Au standard, il est 9h30.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h33, Laurent Bérébi est avec nous, économiste et auteur de ce livre « Monnaie et capital, la nouvelle économie patrimoniale » aux éditions Odile Jacob.
Oui, et Laurent Bérébi, vous posez des questions assez simples qu'on oublie parfois de se poser, mais avec évidemment des réponses en fait derrière, mais qui amènent qui suscitent en tout cas la réflexion. Quand vous dites par exemple, quelle est la justification des prix immobiliers actuels qui écartent la classe moyenne de la primo-accession, même avec des taux aussi bas aujourd'hui.
Oui, absolument.
Hein. Ouais. Et ça, alors pourquoi en fait on en arrive là ?
En fait, pourquoi on en arrive là ? Parce que en fait, on a une politique économique. Alors quand je dis politique économique, c'est notamment politique monétaire, qui a.
Mais pour le coup, qui est mondiale ?
Qui est mondiale.
D'accord.
Et enfin, qui concerne notamment les pays développés, on va dire pas véritablement les pays émergents comme la Chine, mais les pays développés, qui consiste à finalement à chercher à éviter que le prix des actifs financiers ne baisse trop. D'accord ? Donc à chaque fois que ça baisse beaucoup, eh bien on injecte de la nouvelle monnaie par les banques centrales de façon à soutenir le prix des actifs financiers.
On dit que c'est pour éviter des cracks.
Voilà, exactement. Voilà. Et on dit que c'est pour éviter les cracks et donc les dépressions. Ouais. Et donc finalement, c'est ce qu'il faut faire, c'est la politique économique qu'il faut mener. Le fait est que lorsque vous faites cette politique-là, il y a de conséquences néfastes et nocives, y compris pour le libéralisme. Donc cette politique-là, selon moi, n'est pas véritablement libérale. Alors, la première conséquence, c'est que vous créez un aléa moral. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites aux investisseurs, vous inquiétez pas, ça chutera jamais. Donc en fait, on ouvre les portes à ce que les investisseurs investissent de plus en plus sur les marchés financiers.
Sans trop prendre de risques, finalement.
Sans trop prendre de risques,
ouais, donc,
mais en conduisant à des prix qui sont absolument pas justifiés par les fondamentaux, comme on dit, c'est-à-dire qui sont complètement décorrélés, finalement, de la valeur réelle des choses.
Mmh.
Alors que le libéralisme, c'est aussi attribuer un juste prix à chaque chose, et notamment à chaque actif. Donc ça, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et comme c'est plus le cas, et bien vous entretenez les bulles, donc des bulles sur tous les actifs, que ce soit les actifs financiers, mais aussi les actifs immobiliers. Et donc finalement, cette politique monétaire-là, qui est menée aujourd'hui, bénéficie essentiellement à ceux qui ont déjà un patrimoine, mais défavorise ceux qui n'en ont pas.
Ouais, bien sûr.
Donc automatiquement, vous entretenez au sein de la communauté cette fracture qui consiste, alors c'est pas véritablement du pouvoir d'achat, puisqu'on parle de patrimoine, mais ce sont quand même des inégalités patrimoniales qui ont un effet conséquent sur le bien-être de chacun.
Mmh. Ouais.
parce que pour tous ceux qui ne peuvent pas justement accéder à la propriété, eh bien oui, ça a une conséquence fâcheuse pour
leur
bien-être.
Alors, quelles pourraient être les solutions, Laurent Bérébi ?
Alors, je n'ai pas défloré le livre parce que...
Non, mais quand même, quelques pistes.
Mais, alors, quelques pistes. Mais en fait, il y a un vrai sujet. Alors, le vrai sujet, c'est qu'il faut avoir une régulation qui soit adaptée au nouveau régime actuel. Mmh. Cette régulation, elle ne peut pas passer par la monnaie et par la politique monétaire. En fait, on a bien aujourd'hui un régime, au-delà de l'aspect monétaire, qui est la politique monétaire qui est conduite par les banques centrales, on a un régime qui favorise les bulles. Et donc, il y a des conséquences de ces bulles qui sont fâcheuses, à la fois pour l'économie, hein, mais aussi pour la communauté. Et donc, il faut chercher une politique économique qui soit destinée à résorber ces bulles. Alors, l'objectif, c'est pas qu'on ait justement ce crack. L'objectif, c'est de diminuer cette instabilité financière de façon à ce que, justement, la communauté se sente mieux. Et donc, diminuer cette instabilité financière, ce serait justement une politique économique qui chercherait à dégonfler ces bulles. Mmh. Alors, ce n'est pas par la politique monétaire, parce qu'il n'est pas question de faire par le biais de la politique monétaire, ce sera par la fiscalité. Mais la fiscalité, il faut être bien clair dessus. Je vais rajouter une chose. Oui. C'est pas augmenter le poids des prélèvements obligatoires qui sont absolument gigantesques, par exemple en France.
Oui.
C'est d'avoir. On oublie trop souvent que la fiscalité est régulatrice. Et donc aujourd'hui, il y a moyen d'avoir une fiscalité différente qui pèse sur des éléments et qui auront des contributeurs différents que ceux que l'on a aujourd'hui. Voilà.
Mais sur la fiscalité, alors par exemple, l'ISF a disparu. Alors pour justement l'argent, l'actionnariat, etc. Pas pour l'immobilier. En revanche, sur ces actifs, oui. Il faudrait rétablir, selon vous, l'ISF sur l'ensemble des portefeuilles d'actions.
L'ISF, c'est une expression péjorative en règle générale parce qu'on dit c'est un beau prélèvement sur la fortune. En fait, c'est pas un ISF. Je vais donner un exemple. C'est ce que cherchent plutôt à faire les Américains aujourd'hui, les États-Unis. En fait, imaginez que vous ayez votre patrimoine. Mmh. D'accord ? Vous avez gagné normalement votre vie, vous avez un patrimoine qui... Et que finalement, vous avez, avec ce patrimoine, cet argent que vous avez investi sur des actifs, mais qu'aujourd'hui, le prix des actifs que vous avez, il a pris 5, 10%, 15%, mais pas de manière normale, de manière anormale. Ouais. Et donc, il est tout à fait possible d'avoir une fiscalité qui pèse sur les plus-values latentes, c'est pas du tout sur le patrimoine que vous avez initialement, sur le plus-value latente, de façon à ce que, justement, ça régule aussi ces plus-values-là, mais en même temps, vous allez compenser les recettes fiscales que vous retirez de cette nouvelle fiscalité par une réduction de fiscalité sur, justement, des impôts pénalise la création de richesses.
Juste une petite question. Est-ce que c'est cette situation justement du quotidien des Français qui est un petit peu compliquée, qui justement amène les Français vers des partis anti-système?
Oui, exactement. En fait, c'est l'une des raisons majeures du dépeuplement du centre vers le peuplement des extrêmes. Et la conséquence est de ce que l'on voit, c'est-à-dire de l'appauvrissement de la classe moyenne. Et la conséquence, finalement, de ce nouveau régime économique que l'on connaît aujourd'hui. Mais encore une fois, ça ne date pas d'hier, ça fait 20 ans que c'est en train de dériver. Et donc, cet appauvrissement, on le voit, on essaye de colmater, les dépenses publiques essayent de le colmater avec des aides sociales de plus en plus importantes, des aides qui, initialement, sont transitoires, qui deviennent finalement pérennes par la suite, mais ce n'est pas durable.
Ouais.
Et donc, finalement...
Ça, ce sont des pansements.
Voilà, exactement.
Et tout ce qui est alternatif, comme les bitcoins, etc.
Alors ça, c'est justement, c'est une des conséquences de ce que j'appelle dans le livre la monnaie patrimoniale.
Parce que le maire de New York veut être payé en bitcoin.
Voilà, par exemple. Et donc finalement, cette monnaie patrimoniale, c'est une nouvelle forme de monnaie. C'est-à-dire, c'est la monnaie qu'une classe de la population a dans son patrimoine et qui est destinée justement à, non pas à une consommation future, mais simplement à faire de la spéculation et donc finalement...
Ça, c'est de la spéculation. Pour
oui,
le coup,
oui, ça c'est de la spéculation comme bien d'autres choses.
Oui. Merci Laurent Bérébi, c'est passionnant. Monnaie et capital, la nouvelle économie patrimoniale, c'est aux éditions Odile Jacob.
Eh bien moi, je me coucherai moins idiote ce soir. Merci beaucoup, merci. Monsieur Bérébi. Dans un instant, on va vous parler du climat avec une jeunesse qui est partie à la COP26 à Glasgow et qui est revenue dans ses bagages avec illusion ou désillusion. Ils nous ont parlerons dans quelques instants, il est 9h41.